Toujours dans ce thème 3 sur les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991, on s'attarde maintenant sur un exemple plus précis qui est évidemment l'exemple français dans le chapitre 2. On évoque un tournant social, politique et culturel pour la France de 1974 à 1988. Alors déjà, il est intéressant de se demander pourquoi ces dates. En fait, elles n'ont d'intérêt que pour la question politique. Elles correspondent toutes deux à des élections présidentielles. 1974, c'est l'année de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Et 1988, c'est l'année de la réélection de François Mitterrand. Donc c'est une période ici qui correspond à deux septennats, qui était à l'époque la durée du mandat présidentiel. Alors autant politiquement ça peut se tenir, autant d'un point de vue social et culturel, il n'y a pas de modification, de changement particulier par rapport à un calendrier politique. Ce sont des évolutions qui se font sur un temps plus long. Donc dans ce chapitre, on va commencer par évoquer justement cette question politique. Et quand on lit l'intitulé du programme, il met en avant l'alternance politique avec l'élection de François Mitterrand, c'est-à-dire 1989. Donc le tournant, il serait avec l'élection de François Mitterrand. Bon, on peut largement nuancer cette chose-là pour plusieurs raisons. Première raison, 1974, c'est déjà un tournant, puisque dans la Ve République, c'est la première fois que le président de la République n'appartient pas au parti gaulliste, après Charles de Gaulle puis Georges Pompidou. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui devient président de la République en battant en mai 1974 François Mitterrand au second tour. Et cette élection donc marque la fin de la présence d'un gaulliste à l'Élysée sous la Ve République. C'est donc un premier tournant, puisque dans de nombreux domaines, Valéry Giscard d'Estaing va légiférer dans le sens d'une adaptation à l'époque. Hein, on est en 74, seulement 6 ans après le fameux mois de mai 68. Il y a toute une série d'aspirations au changement, à la libéralisation des comportements, à vivre avec moins de contraintes, à être donc plus libre. Hein, pensons au mouvement des hippies, par exemple, dans ces années 60 et début des années 70. Et Valéry Giscard d'Estaing, tout en étant un homme de droite, va amener un certain nombre de changements qui vont dans le sens donc de faire évoluer la société. Donc les changements sociaux interviennent dès les années 70. Le septennat de François Mitterrand, lui, va faire évoluer les questions sociales, mais également les questions économiques. Donc pour rester sur un plan purement politique, le septennat de Valéry Giscard d'Estaing entre 1974 et 1989 marque le recul, en apparence en tout cas, des gaullistes, puisque donc il n'est pas gaulliste lui-même, et il a été certes ministre à l'époque du général de Gaulle, mais en ayant gardé la possibilité de critiquer le général. Giscard d'Estaing, c'est donc un centriste, un homme du centre droit, et il va prendre comme premier ministre quelqu'un dont on va beaucoup parler d'ici la fin de l'année, Jacques Chirac, qui est lui, après une sorte de mini coup d'État, s'est emparé du contrôle du parti gaulliste, du parti des anciens présidents de Gaulle et Pompidou. Les relations entre les deux hommes vont être extrêmement mauvaises et ça va aboutir en 1976 à la démission de Jacques Chirac. C'est un cas un petit peu particulier dans l'histoire de la Ve République, puisque généralement c'est le président qui vire le premier ministre. Là, c'est le premier ministre qui choisit de partir. Et les relations sont tellement mauvaises que pour remplacer Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing va nommer un membre du même parti que lui, un parti qui s'appelle l'UDF, l'Union pour la démocratie française. Et cet homme politique, c'est un centriste, là aussi, un économiste, Raymond Barre. Et le choix de Raymond Barre est à mettre en relation avec la situation économique. On est dans la fameuse, entre guillemets, crise des années 70. Autant Chirac a incarné une tentative pour lutter contre la crise par des politiques de relance, c'est-à-dire des dépenses accrues de la part de l'État pour créer de l'activité économique, autant Raymond Barre est celui qui va commencer à introduire en France les fameuses théories néolibérales avec une volonté d'aller vers un équilibre du budget, des dépenses réduites, hein, afin de faire repartir l'économie. Cette situation, cette politique est fort impopulaire et elle est en partie responsable de la défaite en 1981 de Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle. Le 10 mai 1981, c'est le candidat de la gauche, candidat du Parti socialiste, François Mitterrand, qui devient président. Et François Mitterrand président, c'est l'alternance. C'est-à-dire que pour la première fois, ce n'est plus un homme de droite qui est au pouvoir sous la Ve République, mais un homme de gauche. Donc l'alternance, c'est le passage d'une majorité de droite à gauche ou de gauche à droite. L'accession de François Mitterrand à la présidence, excusez-moi, ça me fait rigoler, ça me rappelle des souvenirs, elle est accueillie par une certaine peur par toute une partie de l'opinion en France. Certains sont persuadés que le fait d'avoir un président de la République socialiste, ça va faire que très rapidement, les chars soviétiques vont être sur les Champs-Élysées. Pour vous dire que on n'était pas très fin en matière politique à l'époque non plus. Donc François Mitterrand devient président, il met en application son programme, qui était un programme de réforme économique avec des nationalisations, c'est-à-dire le passage d'entreprises qui appartenaient au secteur privé dans le secteur public. Dans sa politique, des éléments également d'évolution culturelle, on en parlera tout à l'heure, des éléments sociaux également, puisque on donne aux travailleurs une cinquième semaine de congés payés et on fait baisser la durée légale du travail de 40 à 39 heures. Le problème, c'est que cette politique est extrêmement coûteuse, qu'elle n'a pas les effets attendus, que le franc, la monnaie de l'époque, est attaqué et que l'inflation devient très importante. Donc très rapidement, quelques mois seulement après son arrivée à l'Élysée, François Mitterrand commence à faire évoluer cette position vers ce que l'on appellera à partir de 1983, ou ce changement deviendra officiel, ce qu'on appelle la rigueur. C'est-à-dire, on ne fait plus n'importe quoi avec l'argent, on fait en sorte de ne pas le dépenser à tort et à travers. Aller vers la rigueur, c'est se rapprocher des thèses néolibérales, bon, avec un côté social plus affirmé, mais ça n'est plus essayer de relancer l'économie par des dépenses, par des commandes, par une sorte de contrôle de l'État sur l'économie. François Mitterrand va, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs, subir ce qu'on appelle l'usure du pouvoir, et au bout de 5 ans, en 1986, il se trouve dans une situation fort compliquée, puisque la gauche perd les élections législatives, donc les élections à l'Assemblée nationale, et le parti qui arrive en tête à l'Assemblée nationale, c'est le parti de Jacques Chirac, le RPR, Rassemblement pour la République, et ce RPR est en position, donc, puisqu'il est majoritaire avec l'autre parti de droite qui est donc l'UDF, le parti de Jacques Chirac est en possibilité, est en position pour pouvoir gouverner. Il y a plusieurs possibilités dans cette situation. François Mitterrand aurait très bien pu choisir de démissionner pour ne pas gouverner avec un gouvernement de droite. Il aurait pu dissoudre l'Assemblée, créer donc une situation compliquée dans laquelle on devrait revoter quelques semaines après avoir déjà voté pour élire des députés. Il choisit la situation inédite, celle que le général de Gaulle avait quelque part refusé d'imaginer en 1958 à la création de la Ve République. Cette situation, c'est celle que l'on va appeler la cohabitation. On va donc avoir de 1986 à 1988 un président de gauche à l'Élysée, un premier ministre de droite, Jacques Chirac, à l'hôtel Matignon. Une situation extrêmement conflictuelle entre deux hommes qui se respectent mais qui en même temps ne se passe rien. Parfois, François Mitterrand refuse de signer un certain nombre de lois qui ont été adoptées sur l'action du gouvernement. Il tient énormément à ce que l'on respecte les prérogatives de sa fonction de chef de l'État. Donc on a cette situation très particulière dans les grandes réunions internationales d'une France qui ne vient pas toute seule, mais qui vient à deux avec le chef de l'État et le Premier ministre pour la représenter. Paradoxalement, c'est une situation qui plaît aux Français, qui trouvent que finalement, l'homme de droite corrige d'une certaine manière l'homme de gauche et vice-versa. Donc, entre 1974 et 1988, politiquement, la France fait la découverte de situations qu'elle va retrouver par la suite, la situation de l'alternance, le passage de droite à gauche, de gauche à droite, mais également la situation de cohabitation avec un gouvernement d'une sensibilité politique et un chef d'État à l'Élysée qui est de la sensibilité politique opposée. Ça, c'est pour le tournant politique. Pour le tournant social et culturel, le programme multiplie les exemples et parle d'une société en mutation. Et c'est vrai que cette période des années 70-80, c'est une période où beaucoup de choses vont changer parce que justement, c'est l'époque où toutes les aspirations, ou en tout cas une partie des aspirations de la jeunesse des années 60, va se retrouver finalement réalisée à travers un certain nombre de réformes. Ces réformes, elles touchent d'abord justement la jeunesse. La jeunesse qui est nombreuse, on est à la fin de ce fameux phénomène que vous connaissez, qu'on appelle le baby-boom. Cette jeunesse nombreuse, elle veut avoir une place plus importante dans la société. Mai 68, c'était entre autres un mouvement issu d'une jeunesse qui étouffait, qui en avait assez de ne pas être considérée. Giscard d'Estaing, dès son arrivée à l'Élysée, prend une décision forte. Il abaisse l'âge de la majorité de 21 à 18 ans. Autrement dit, les jeunes vont être en capacité d'avoir une action politique par le vote beaucoup plus tôt. Entre parenthèses, la majorité des jeunes en 1981 votera contre Giscard d'Estaing. Ces jeunes, ce qui va caractériser également leur vie, c'est l'allongement de la durée de leurs études. On entre dans une véritable période de démocratisation de l'enseignement secondaire et supérieur. L'âge obligatoire de scolarité était à 14 ans, il est passé à 16 ans, donc des études plus longues, beaucoup plus de jeunes qui passent au lycée, beaucoup plus de jeunes également qui obtiennent leur bac et partent vers le supérieur. Alors attention, on est loin d'avoir atteint à cette époque-là les chiffres d'aujourd'hui. Mais c'est un changement que l'on perçoit à cette époque. Beaucoup de bacheliers, de jeunes qui obtiennent leur bac, sont les premiers dans leur famille à l'obtenir. C'est mon cas, par exemple. Ces jeunes, donc, ont une place plus importante dans la société. Et cette place plus importante dans la société, elle va aller de pair d'un point de vue culturel avec un certain nombre de transformations, comme celle qui touche à tout ce qui est les médias. Les médias, jusqu'alors, il faut imaginer des médias qui sont fortement contrôlés par l'État, pour ce qui est des médias publics, et des médias privés qui, eux, sont dans une situation un petit peu bâtarde, puisque, en théorie, il y a un monopole sur la radio, sur la télévision en France, et les seuls médias privés qui peuvent exister dans l'audiovisuel sont des radios que l'on appelle des radios périphériques, et dont les émetteurs sont situés hors du territoire français. Autant vous dire que ce soit sur le domaine public ou sur ces radios périphériques, les musiques que l'on diffuse sont rarement celles que les jeunes écoutent. Donc, parmi les mesures qui vont être prises assez rapidement par François Mitterrand en 1981, il va y avoir la création de ce qu'on va appeler les radios libres, c'est-à-dire des radios locales, des radios qui à l'origine sont prévues sans publicité. Et donc on va pouvoir, quand on est jeune, au début des années 80, accéder à toute une programmation musicale qui ne correspond pas du tout à ce qui se diffuse à l'époque sur RMC, Europe 1, RTL ou France Inter, pour citer les quatre principales radios nationales de l'époque. Autre évolution imaginée par François Mitterrand et son ministre de la Culture, Jack Lang, essayer de dynamiser finalement cette jeunesse et à travers la jeunesse un petit peu l'ensemble de la société avec des événements participatifs, les deux principaux qui existent toujours aujourd'hui étant la fête du cinéma pour inciter les populations, les jeunes en particulier, qui n'y allaient pas forcément spontanément, à découvrir des films. Et puis l'autre événement, fin du mois de juin, la fête de la musique, qui là encore donc est toujours présente bien des années après. Donc une jeunesse qui est davantage associée à la vie finalement culturelle, politique du pays, une jeunesse qui dicte bien évidemment aussi les évolutions dans la manière de penser, et parmi les évolutions qui vont avoir tendance à distinguer les jeunes des plus anciens, il va y avoir les comportements, on va dire, par rapport à certaines populations, les gens qui ne sont pas comme les autres, on va dire. La jeunesse, elle est beaucoup plus ouverte aux phénomènes migratoires. Elle est plus susceptible d'accepter l'intégration de populations différentes par ses apparences, par sa manière de s'habiller, par ses préférences sexuelles, etc., etc. Donc cette jeunesse, cette culture jeune finalement, elle va trouver à prendre une part de plus en plus importante dans les médias, à travers les radios libres, mais également à travers de nouvelles chaînes de télévision, car c'est une des autres évolutions des années 80. On va voir apparaître des chaînes de télévision privées. La première à naître en 1984, c'est une chaîne un peu particulière, c'est Canal+, particulière parce que c'est une chaîne payante. Dans la foulée, deux autres chaînes seront créées, la 5 et la 6. La 5 qui est plutôt une chaîne généraliste, la 6 qui est une chaîne qui s'appelle à l'époque TV6, qui est une chaîne plus pour la jeunesse, qui diffuse des clips de musique pratiquement sans interruption toute la journée. Donc, vous voyez un paysage audiovisuel français qui se transforme et qui prend des formes nouvelles, notamment par rapport à tout ce qui est impact de cette jeunesse qui est un petit peu plus présente dans un pays qui est un petit peu plus vivant aussi après les années, certes de progrès économique, mais un petit peu grise des années 60, sous la domination de Gaulle, puis de Pompidou. Et il y a, on va finir par ça, une catégorie qui va, dans ces années 70-80, essayer de tenir une place plus importante dans la société et dans la vie politique et dans le domaine culturel, ce sont les femmes. Effectivement, dans cette société en mutation, la place et les droits des femmes évoluent. Le début des années 70, il est marqué par la naissance en France de ce qu'on appelle le MLF, le Mouvement pour la Libération de la Femme, dont l'objectif est de permettre aux femmes, finalement, de s'assumer, de disposer pleinement des droits que petit à petit elles ont réussi à conquérir dans l'histoire. Mais la femme reste vue comme étant avant tout une mère de famille qui fait la cuisine, qui ne travaille pas, etc., etc. Donc c'est toute cette évolution qui va être à faire finalement, avec une date qui est une date clé, qui est en 1975, la légalisation de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, avec la loi votée et défendue par la ministre de la Santé Simone Veil. Cette loi est un véritable tournant dans l'évolution des droits des femmes, puisque elle signifie tout simplement que la femme peut disposer de son corps, qu'elle n'est pas simplement là pour enfanter, qu'elle n'est pas là pour reproduire l'espèce, qu'elle peut donc choisir de vivre comme elle l'entend et de donner des naissances à des enfants ou de ne pas donner de naissance à des enfants. Ça avait commencé à évoluer en 1967 avec la loi qui permettait la contraception, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment la pilule. Mais 1975, c'est le choix d'interrompre finalement une gestation de manière à pouvoir ben, continuer à vivre si l'enfant n'est pas souhaité. Ça ne veut pas dire pour autant que la femme, comme on dit de manière extrêmement péjorative, la femme va conquérir immédiatement des droits. La position des femmes, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine culturel, que ce soit évidemment dans la vie économique, au niveau des postes de responsabilité, reste à ces époques-là encore extrêmement minoritaire. Mais certaines femmes jouent un rôle et font fi finalement figure d'arbre qui cache un petit peu la forêt. Donc quelques ministres, donc comme Simone Veil dont j'ai parlé tout à l'heure, ou des auteurs comme François Giroud, qui, elle, est nommée pendant le septennat de Valéry Giscard d'Estaing au poste de secrétaire d'État à la condition féminine. On voit bien là qu'il y a une volonté politique d'essayer de faire évoluer la situation des femmes, la place des femmes dans cette société des années 70-80. Pour terminer, deux éléments difficiles à situer. Un plutôt positif peut-être, un plutôt inquiétant. Le phénomène positif, c'est en 1981 l'adoption, alors que la majorité de l'opinion publique n'y est pas spécialement favorable. Donc l'adoption de l'abolition de la peine de mort que François Mitterrand avait défendue pendant la campagne électorale, tout en sachant que ça ne lui permettrait pas de gagner particulièrement des voix, une abolition de la peine de mort, donc qui est votée sur l'action du garde des Sceaux et ancien avocat Robert Badinter. Et cette abolition de la peine de mort, elle distingue d'une certaine manière la France par rapport à des pays comme les États-Unis, où elle est encore extrêmement présente à l'époque dans un certain nombre d'États, et elle l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis l'événement plutôt négatif et dont la présence dans ce chapitre est un petit peu étonnante, il faut bien le dire, c'est l'épidémie de sida. Alors pourquoi je dis que c'est étonnant? C'est étonnant parce que l'épidémie de sida, on ne peut pas la borner entre 1974 et 1988. Le sida, c'est une maladie qui apparaît donc, une MST, une maladie sexuellement transmissible, qui apparaît donc dans les années 80, mais dont l'impact va être durable jusqu'à la mise au point de traitements qui ne guérissent pas de la maladie, mais qui permettent d'en atténuer les effets, à ce qu'on appelle les trithérapies. Et ce qui est particulier dans cette épidémie du sida, c'est d'abord qu'elle va avoir un impact essentiellement sur la jeunesse, puisque c'est les relations sexuelles qui se trouvent bridées finalement par cette peur du sida. Et puis elle va avoir un impact finalement social et politique, parce que on va accuser finalement de l'existence de cette maladie une catégorie de population bien particulière qui sont les homosexuels, puisque c'est dans cette communauté que la maladie est apparue, moyennant quoi on en a conclu que ça ne touchait que les homosexuels, avant de se rendre compte que non, tout le monde pouvait être touché, soit au niveau sexuel, comme je disais, soit par l'intermédiaire de transfusions sanguines. Et cette épidémie, donc, elle dure au-delà des années 80, et elle va recouvrir donc des luttes politiques, puisque le sida va être d'une certaine manière parfois instrumentalisé par certains groupes politiques, notamment conservateurs, pour faire d'une certaine manière la preuve que la société française est décadente, parce que justement, c'est un vieux refrain qu'on a déjà rencontré dans l'histoire, une société qui serait décadente parce qu'elle penserait plus au plaisir, parce qu'elle penserait plus à la fête, parce qu'elle penserait plus à vivre plutôt qu'à baisser la tête et à travailler. Donc ces années de 1974 à 1988 sont un tournant. Un tournant qui, paradoxalement, aujourd'hui est regardé avec une certaine nostalgie. On le voit régulièrement avec la mode, notamment des musiques des années 80. Et beaucoup de gens qui pensent que cette époque-là était une époque où finalement on vivait bien. On vivait bien, oui, être jeune dans les années 80, ça avait des côtés sympathiques, mais ça avait également des côtés tout à fait angoissants parce qu'il y avait la crise, parce qu'il y avait la guerre froide, etc., etc. Vous le voyez, la mémoire en histoire, c'est ça, c'est cette capacité à transformer la réalité du passé pour en retenir que ce que l'on veut en retenir. Les années 80 furent des années de progrès, mais ce furent aussi des années difficiles. Un tournant, peut-être, mais un tournant qui n'a pas fini de tourner.